le courage de Kaveh Mohseni, que je connais moins bien, mais qui va peut-être pouvoir nous parler un peu de ce qui se passe en Iran actuellement. On a du mal à saisir, on voit que des étudiants cherchent à prendre en défaut le régime des mollahs, mais on a l'impression qu'ils veulent s'opposer à une privatisation des universités. Du coup, on se dit, ah tiens, ce sont des socialistes qui veulent encore plus de collectivisme et de communautarisme. Et puis alors, Bush dit qu'il apprécie ses étudiants. Alors, le pouvoir iranien dit, ah, ce sont des agents américains. et on profite, c'est très confus dans l'esprit des gens, et par rapport même aux gens qui se sont immolés après cette rafle de la police française, il faut peut-être pas employer ce terme là, mais ce démantèlement organisé par la police française, peut-être que vous pouvez nous préciser un peu tout cela, car sur le dossier iranien il est compliqué et beaucoup s'y perdent.
Très bien, d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité. Et je suivais avec beaucoup d'intérêt le débat entre vous, Alexandre et Rachid. Et je me disais vivement qu'il y a en Iran des radios libres, une liberté d'expression, pour qu'on ait droit au même espace de liberté, au même espace de jouissance des libertés, et qu'enfin on puisse montrer que l'Iran est capable de se montrer démocrate, pluraliste et laïque. Sauf que en ce moment, ce qu'on lit dans la presse française... On nous dit que ce pays, il y a les enfants de la Révolution qui ont des revendications très confuses. Il faut penser savoir quand même que la République islamique dépense énormément d'argent en France. Donc, non pas qu'il achète la presse, mais il peut avoir des experts...
Comme l'aurait fait Saddam Hussein ?
Non, c'est plus des experts... des intellectuels iraniens ou des hommes qui sont très influents, qui sont enseignants aux Sciences Po et qui sont très proches du régime iranien, que eux, ils viennent dire que ce régime a beaucoup de défauts, mais qu'il se libéralise. Et en fait, s'il y a les étudiants dans la rue, c'est qu'il s'est libéralisé, ce qui était impensable il y a 10 ans ou 20 ans. Et en fait, il court-circuite le mouvement estudiantin. Donc plus les gens gueulent dans la rue, plus on dira « mais c'est génial, finalement la démocratie est là ». Donc notre but, c'est de faire connaître ce mouvement en France, de dire quel est l'historique de mouvement estudiantin, d'où ça vient, c'est pas un mouvement en un seul bloc, il y a eu plusieurs courants. Nous on était dans le courant laïque, on existe depuis 6 ans parmi les mouvements clandestins, et on a été présent le 9 juillet 1999, quand il y a eu le soulèvement des étudiants iraniens. Ce soulèvement a été maté dans le sang. Il y a eu l'attaque des dortoirs, où les étudiants étaient jetés par les fenêtres, on les a crevé les yeux, il y en a plusieurs qui étaient tués. Et à l'exemple le plus frappant, c'est un étudiant proche du régime, étudiant en cinéma, qui faisait un reportage sur la vie de l'université, il a filmé les scènes et il a brandi une chemise ensanglantée. Sa photo était prise, c'est un garçon qui a une bonne tête, on a un visage un peu christique, une barbe, les cheveux longs, et la photo a fait la une de la Libération et de l'Économiste en Angleterre. À cause de cette photo, il a écopé d'une peine de mort qui a été réduite à 15 ans de détention.
Ça prouve que le régime se libéralise beaucoup, puisque Ratami est quelqu'un d'extraordinaire, enfin 15 ans de prison, c'est rien.
Et Ratami, il a lâché les étudiants, il a lâché, il ne les a pas suivis, et cette année, au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, où les étudiants quand même descendaient dans la rue pour la commémoration de cette date, étaient quand même à nouveau tabassés, à nouveau frappés, par différentes... forces policières qui existent en Iran, parce que chaque ministère a sa propre police, chaque homme politique influent a sa propre police, que vous avez les gardiens de révolution, qui étaient une milice qui a remplacé l'armée, qui entre-temps sont devenus des gentils, parce qu'ils se sont ils sont devenus plus officialisés. Il y a les volontaires, qui sont féroces, qui sont la version moderne des tontons Makout. c'est-à-dire un gars à moto et un autre derrière à machette, et on passe parmi les manifestants et on découpe en morceaux. Il y a les hommes en civil, c'est des hommes qui sont en civil, on ne sait pas à quel service ils appartiennent.
C'est quand même très libéral, enfin, je veux dire, absolument. Le système se libéralise. Si on absolument vous découpe à la machette derrière, enfin, le président qui a terminé, mais oui, je ne comprends pas pourquoi on s'inquiète de ce qui se passe.
Voilà. Les hommes s'arrêtent dans la rue, en voiture, qui sont sans immatriculation, et ils jettent l'opposant dans le coffre et ils s'en vont.
Et on ne retrouve jamais, bien sûr, l'opposant.
On le retrouve de temps en temps, s'il y a trop de précipitations et que les terrains vagues se dégorgent, on trouve des cadavres, on trouve des gens sans tête, on trouve des gens sans bras, voilà.
Bah, vous voyez, c'est la preuve que c'est la liberté. Si c'était vraiment un régime tyrannique, il découlerait sous les dalles de béton.
Mais c'est pas ça à propos.
Il n'a rien fait, Khatami, alors.
Non, Alexandre. Il n'a rien fait, mais au moment où il faisait sa campagne présidentielle l'année dernière, il a eu quand même l'idée saugrenue d'aller à l'université. Et les étudiants lui ont posé « Mais qu'est-ce que vous dites des prisonniers politiques ?» Il a dit « Il n'y a pas de prisonniers politiques en Iran. » Et mais de toute façon, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à se reprocher ?
On les exécute. Il n'y a pas de prisonniers politiques.
Non, de toute façon, il n'y a pas de prisonniers politiques en Iran.
Oui.
Ils sont enfermés avec les prisonniers de droit commun. Et souvent, c'est des jeunes gens frêles qui sont mis au contact de drogués, de violeurs et d'abord ils sont violés, filles et garçons, par les matons et après par les autres prisonniers. Donc c'est, en fait c'est une manière de dissuader quiconque veut faire de la politique de le dissuader d'y aller. Parce que soit t'es arrêté et t'es pendu comme trafiquant de drogue ou comme proxénète ou comme tout ce que tu veux, soit finalement t'es pas exécuté, tu vas en prison et là-bas tu subis les pires sévices. Donc finalement c'est un système qui est bien utilisé parce que franchement, personne n'a envie qu'on le découpe en morceaux, qu'on le viole.
Je crois que même à ce compte-là, même des gens très courageux comme Alexandre Delval et Rachid Kassi reconsidéreraient peut-être l'opportunité de leur engagement politique. Je louais tout à l'heure leur courage, mais effectivement, il y a des pays où on atteint des niveaux assez délirants.
Il y a des gens qui y vont.
Le courage, c'est lorsque des gens font cela, malgré ce genre de menace. Nous, on n'est pas courageux, on fait que notre devoir. Le courage, c'est quand des gens, comme en Iran ou en Algérie...
Et malgré ça, ils vont. C'est incroyable. À un moment donné, même ces forces volontaires, les tontons Makoutes, ils ont refusé de taper sur des gens. Ils ont fait venir des forces de l'ordre qui ne sont pas iraniens, c'est des Libyens, ou ça. Ils ne parlent pas iranien. Donc si quelqu'un leur dit pitié... Le type, il comprend pas. Pour lui, bon, il pense qu'il est en train de l'insulter et lui met un coup de bâton dans la gueule. Donc, c'est ça qui est important. C'est que malgré ça, ils y vont. Malgré ça.
Extraordinaire.
C'est parce qu'il y a un niveau de désespoir immense en Iran.
C'est étonnant, je pensais que l'islamisme apportait la paix, la prospérité et un grand épanouissement personnel. Je ne comprends pas.
70% des personnes, des Iraniens, de 70 millions des Iraniens, 60%, 65% jusqu'à 70% selon les chiffres, ils ont en dessous de 30 ans. Il y a 40% de chômage dans une société où la femme ne travaille pas. Donc, dans ces moments de précarité, si le père est tenté de voler quelque chose, de ramener quelque chose de manière illégale à la maison, il va en prison et la famille est démantelée. Les femmes se prostituent, les enfants se prostituent, et à un moment donné, on arrive à un état de désespoir total. On dit, il n'y a plus d'avenir. Et en fait, nous, quand on s'adresse aux politiciens français, on ne se base pas sur tout ça, qui sont des choses invérifiables. Nous disons, regardez, les exécutions sont publiques en Iran. Les images sont des images AFP. C'est le moyen qu'a le régime d'effrayer ses opposants. Les chiffres de chômage sont les chiffres de gouvernement. Le chiffre qui donne 15% des enfants des personnes qui ont entre 9 ans et 25 ans usagés des drogues dures, ça c'est un chiffre gouvernemental. Donc, quand Dominique de Villepin va en Iran le 24 avril et il revient et il dit « Je me félicite des progrès de l'Iran »,
il est très spécial.
Il est très mal informé. Mais il n'y a pas d'excuse d'être mal informé parce qu'il y a les images, il y a les chiffres.
Il connaît très bien la période napoléonienne. D'ailleurs, il se prend un peu pour Napoléon, comme tous les énarques français. Mais
sur ces gens-là, défendre le régime que la Libye, l'Iran.
Je pense que c'est. Il y a beaucoup d'intérêts économiques. la France, de toute façon, a besoin d'avoir des partenaires économiques. Mais en même temps, l'Iran est devenu un très mauvais payeur. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne passe plus de gros contrats à long terme avec l'Iran. Les contrats, toujours, s'étalent sur 2 mois. Par exemple, Technip vend des équipements pour de raffineries de pétrole. Et c'est payable en 2 mois. Livrable et payable en 2 mois. Donc en fait, c'est parce qu'on on donne peut-être une durée de vie à ce régime qui est de l'ordre de 2 mois à chaque fois. Parce que tout le monde pense que ça va s'effondrer.
Mais l'Iran a quand même, excusez-moi de vous couper, mais l'Iran a quand même des revenus pétroliers importants, donc pourquoi oui, ne sont-ils pas...
On ne sait pas où ils passent.
Les mollahs iraniens seraient donc des escrocs, des bandits qui s'en mettraient plein les poches.
Non. Forbes Magazine, où vous sauriez que l'ex-président Rafsanjani, qui était le chouchou des socialistes...
Quelqu'un qui s'en met...
des gens de la droite. Là, il y a égalité, oui. Ils sont tous bien, ils étaient conformes. Et l'homme le plus riche du monde.
Ah bon?
Et dans l'affaire Enron, il a perdu un peu d'argent, c'est-à-dire 80 millions de dollars.
L'homme le plus riche du monde, je croyais que c'était le sultan du Brunei ou bien Bill Gates.
Tout ça, c'est des gens présentables qu'on veut montrer. Le sultan de Brunei, malgré le fait qu'il vient d'un pays musulman, je veux dire, c'est un homme cultivé et présentable. Il n'est pas l'homme qui a la Rafsanjani, c'est l'homme qui a la réputation d'aller dans les prisons pour se chercher des jeunes filles pour la soirée. On peut même pas raconter ce qu'il fait avec, parce que c'est tellement gros que personne ne le croirait.
Mais Khomeini se vantait d'aimer les femmes prépubères.
Non, non. On ne peut pas lui reprocher d'écart sexuel.
Mais dans le cadre de la loi islamique, il paraît qu'il a...
Ah oui, non, mais les filles sont mariables
voilà.
à 13 ans en Iran.
Absolument.
À 13 ans, voilà. Donc, par exemple, au moment... parce que nous, on sait que les Iraniens, le gouvernement iranien, dépense énormément d'argent, par exemple, au niveau du festival de Cannes, pour qu'il y ait chaque année... un cinéaste qui soit récompensé. Mmh. Et nous avons écrit à Patrice Chéreau pour que et aussi à comment il s'appelle celui qui a fait Chat Noir, Chat Blanc, Emir Kusturica. Voilà. Que dire que s'il y a un jeune cinéaste talentueux iranien qui est récompensé, qu'on parle que ça serait important qu'il y ait d'autres cinéastes, des gens qui s'engagent pour la démocratie.
Et comment est-ce que sont reçues vos démarches?
Rien du tout. La réponse a été vraiment cinglante parce que ils ont changé le règlement pour donner un prix à une fille qui est cinéaste iranienne, qui est venue sur scène pour, non pas pour parler des étudiants iraniens, mais contre la guerre en Irak. Alors que bon, et vraiment un mois après, il y a eu les révoltes estudiantines. Donc on peut dire que cette fille n'est pas au courant de ce qui se passe en Iran. C'est déjà ça. Donc on a donné un prix à quelqu'un qui connaît rien du tout à la jeunesse iranienne. Deuxième chose, cette fille vient toujours avec une couverture islamique sur la tête.
Ça, on aime bien ça, les islamistes en France.
Une couverture islamique.
Oui, couverture, je sais pas, tchador, foulard, tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que les Iraniens ont le sentiment que la diplomatie française les traite avec mépris.
Ah, je pensais qu'au contraire, il y avait un certain respect.
Le mot qui vient, c'est le mépris et la passivité.
Passivité, oui, mais mépris, pourtant non. Lorsqu'on encourage et qu'on dit qu'il y a une libéralisation étonnante, il faut féliciter
oui,
le président
les institutionnels.
Etc. Ah oui, les institutionnels.
Ces jeunes cinéastes... par exemple, ils n'ont jamais fait cause pour cet étudiant en cinéma qui est en prison, injustement, juste pour avoir tenu une chemise ensanglantée. Et là, on se dit que, imaginons qu'un cinéaste français, ça lui arrive quelque chose comme ça. Est-ce que les autres cinéastes ne vont pas faire cause pour lui? Donc, c'est quelque part...
Ça dépend s'ils risquent de perdre leur subvention en prenant fait des causes pour lui, je pense qu'ils ne le feront pas. Et si en plus ils risquent de perdre leur vie et qu'ils sont en Iran, c'est toute la difficulté du terrorisme de l'État.
Mais le problème, c'est que les Iraniens qui voient tout ça, ils se disent les Français tous pourris. Et en fait, moi je pense pas que ça soit vrai, parce que aussi bien que tous les Iraniens ne peuvent pas être tenus pour des terroristes parce qu'ils sont dirigés par des terroristes, tous les Français ne peuvent pas être tenus pour des gens qui s'intéressent pas à la démocratie en Iran parce que leurs dirigeants ou les institutionnels ne prêtent pas attention à ce qui se passe en Iran. Et en fait, notre but, c'est de fédérer l'opinion en France pour qu'on écoute les revendications du mouvement estudiantin, pour qu'on montre qu'on n'est pas des têtes brûlées qui veulent exploser le système et remplacer ça par un par une république démocratique d'Iran ou des systèmes similaires. C'est que, en fait, la République islamique est arrivée au pouvoir par une alliance entre les extrêmes gauches et les extrêmes islamistes.
C'est amusant parce qu'on retrouve les mêmes connexions en France entre les islamistes et les trotskistes, entre l'extrême gauche et donc le même phénomène est en
nous avons dénoncé, Rachid et moi.
Exactement ce que Rachid Cassie et Alexandre Delval dénoncent par écrit comme par oral.
Mais ce n'est pas pour autant que nous, on a envie de diaboliser tous ces mouvements. Parce que on pense que la transition de pouvoir en Iran doit se faire par la coalition de toutes les forces existantes, y compris les dissidences à l'intérieur de la République islamique. Parce que sinon, on va aller vers une révolution dure, alors que nous, on veut une révolution de velours. On veut une transition parce que les gardiens de révolution vont venir dans la rue, manifester à côté du peuple et empêcher les Basiji, les mecs à moto et à machette d'intervenir. Et qu'on arrive à sortir de la République islamique sans passer par un bain de sang, parce que si on tue des gens aujourd'hui, dans 30 ans, leurs enfants viendront nous embêter et empêcher l'Iran de devenir une démocratie.
Est-ce que c'est pas un peu utopiste? Est-ce qu'on peut expulser des gens qui véritablement ont capté le pouvoir et règnent par la violence de manière pacifiste? Est-ce que, hélas, les Iraniens, s'ils veulent se libérer, ou ils en passent comme d'autres peuples, comme tous les peuples, si vous relisez toutes les histoires, l'histoire de l'Europe n'a été que des confrontations extrêmement sanglantes entre des clans.
De il y a eu quand même le Portugal.
Oui, mais c'est un.
La révolution des œillets, où l'armée est intervenue, bon, c'est pas un cas général, mais dans d'autres, il y a d'autres cas. Mais le plus important, c'est vraiment arriver au moment de transition d'imposer une amnistie générale.
Bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. C'était donc Kaveh Mohseni, qui est président délégué en Europe du comité de coordination du mouvement estudiantin et laïque pour la démocratie en Iran.
Il y a un site.
Peut-être donner l'adresse du site.
Alors.
Je vous laisse la donner.
Alors, c'est www.daneshjoo.org ou alors vous tapez SMCCDI sur votre moteur de recherche et vous allez tomber sur nous. SMCCDI, c'est Student Movement Coordination Committee for Democracy in Iran.
Voilà.
Alors, on est plus anglophone, parce que les Iraniens sont...
Il y a une large communauté iranienne aux États-Unis.
Et surtout, ce que je veux dire, c'est que si les Français étaient moins tièdes et ils s'engageaient en faveur de ce mouvement estudiantin, ils aussi pourraient avoir à gagner d'autres combats que le pétrole, qui est par exemple la francophonie. Voilà.
Eh bien, écoutez, pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont des fans de la défense de la francophonie, ils ne manqueront pas d'aller visiter votre site. Merci Kaveh Mohseni. On va revenir sur les problèmes français, mais cet interlude pour illustrer les méfaits.